France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Aux informés de France Info, nous aimons bien parler de tous les sujets et apprécions la culture par-dessus tout, la culture qui rapproche, éduque, élève. Voilà pourquoi nous allons parler du film Sausage Party, et oui, Saucisse Party, en français, un dessin animé pour adultes décrivant le drame terrible d'aliments qui vont se rendre compte qu'une fois sortis du magasin, ils sont morts. Et ça n'a pas plu à la manif pour tous, et oui, figurez-vous, puisque ce set party fait moult allusions sexuelles à la relation entre une saucisse et un pain à hot dog, plus quelques scènes d'orgie entre légumes. Oui, ça paraît absurde hein, quand on dit comme ça. Alors c'est un film quand même qui est interdit au moins de 12 ans, et ça révulse les tenants de la manif pour tous. Alors juste trois choses, hein, si vous nous écoutez ou nous regardez. S'il y a une interdiction pour les moins de 12 ans, bah, on n'emmène pas son enfant de moins de 12 ans, simplement. Deuxième chose, voir ce film avec son enfant avant qu'il soit sorti en salle. Ça veut dire commettre un délit en téléchargeant hein, illégalement. Et troisièmement, une saucisse et un pain hot dog, c'est une valorisation d'un couple hétéro-saucisse. Donc pourquoi ça choque tant la manif pour tous? Là, on ne comprend pas. Il paraît d'ailleurs que Ludivine de la Rochère a jeté le contenu de son frigo pour ne pas être tentée. Ce soir, on lui dit quand même bon appétit. Hein. Et eux, ils n'ont pas eu le temps d'aller au cinéma cet après-midi. Ils ont potassé l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocate Caroline Mécari. Bonsoir.
Bonsoir.
Également, Irène Achospel de l'Opinion. Bonsoir.
Bonsoir.
Éric Métou de l'Express. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Audrey Goutard de France Télévisions. Bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons de l'IVG, toujours en débat, mais numérique. Hein, la voiture qui n'est pas prête de dire adieu, Mélenchon et le coup d'État libéral, ça existe. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Voilà donc les premiers signes d'un frémissement. Hier, à la salle de la Bellevilloise, à Paris, se réunissaient 200 à 250 personnes pour la première réunion du collectif AG. Oui, une AG comme Assemblée Générale, afin de permettre hein, à des membres de la société civile et à des personnalités de réfléchir sur le cas François Hollande. Une réunion qui a pour volonté de faire des petits, une version Koh-Lanta de la politique pour sauver hein, le futur de la gauche, le totem de la gauche. Une réunion pro-Hollande. Alors non, pas vraiment, mais un peu. Mais bon, au moins on s'est réunis, c'est déjà ça. Philippe Lemoine, président de AG et du Forum d'Action Modernité.
Il faut franchement que la France défende ce qu'elle a de bien, ce qu'elle, qui est son message. Enfin, il y a, voilà, on peut pas se dire, si vous voulez, 2017, on laisse passer, on se reconstruit, on vous fait une pause et puis on verra plus tard. Non, ça c'est pas possible. Alors voilà, c'est une initiative de ce type-là. Et pourquoi on y croit? Parce que c'est pas un problème de temps ce qu'on a devant nous. C'est un problème de décloisonnement du fait que le pays parle au pays, que les gens se parlent et qu'il y a une étincelle. Voilà. Alors c'est ça qu'on essaie de créer.
Voilà, Philippe Lemoine, président de AG du Forum d'Action Modernité, ce matin sur France Info. Caroline Mécari, ce genre d'initiative, ça peut finalement aider François Hollande, pensez? Ou c'est anecdotique? C'est une étincelle, comme le disait ce président.
Écoutez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est assez anecdotique. Le président François Hollande est dans une telle situation que je ne vois pas très bien ce qui peut l'aider, à part la propre conviction qu'il a, qu'il doit y aller. Et psychologiquement, je pense qu'il a cette conviction parce qu'on lui a toujours dit qu'il allait perdre aussi bien le fait de devenir premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est quand même bien devenu premier secrétaire du Parti Socialiste. Ensuite, on lui a dit « vous n'arriverez pas à devenir président de la République ». Il est quand même devenu président de la République, donc je pense qu'il est dans cette optique-là, de psychologiquement, il va y aller. On peut saluer peut-être cette initiative, mais bon, je crois que... Enfin, voilà, quoi.
Ça reste anecdotique, Audrey Goutard, vous pensez? Parce qu'en fait, on a retrouvé beaucoup de gens qui étaient présents hier, qui avaient signé aussi l'appel Stop Hollande Bashing.
Voilà, et
on
oui, sent. Et voilà. Alors, je regardais, moi, au lendemain, justement, de cette liste Hollande Bashing, qui est apparue dans le JDD, je regardais un peu les réactions sur les réseaux sociaux, et on se rendait compte que finalement, ces gens qui étaient là pour soutenir François Hollande exaspéraient les réseaux sociaux, les déchaînaient, en disant qu'est-ce que c'est des bobos qui nous donnent des leçons de morale, etc. Donc, je suis pas sûre que ces élans de soutien, si vous voulez, soient favorables, en tout cas, aux peut-être futurs candidats.
Vous êtes prudente en tout cas. Voilà. Irène Achospé, pour vous, voilà ce genre d'initiative. Ils ont dit qu'ils se réuniraient de nouveau. Ils insistent pour dire que ce n'est pas que des people, c'est aussi des membres de la société civile.
Oui, enfin, il y a quand même pas mal de people. Enfin, je trouve que de leur part, c'est très sympathique, compte tenu du fait que Hollande est au plus bas dans les sondages. Mais enfin, quand on se rappelle le soutien des gens d'Hollywood à Hillary Clinton, ça a joué totalement en sa défaveur. Je vous rappelle ce que Trump avait dit. Moi, j'ai pas de star, mais je vous ai vous le peuple. Alors voilà, etc. Donc, Donc je pense effectivement que ça va pas changer grand-chose. Après, je m'étonne aussi, c'est pas comme si, comme l'économie va très bien, qu'on est en plein emploi, il n'y a pas de risque d'attentat. Alors le gouvernement peut passer du temps à ne pas gouverner, à s'occuper des primaires. Enfin, moi, je trouve ça assez consternant. Donc on dit beaucoup que... De toute façon, François Hollande, je vois pas comment il ne peut pas y aller. C'est Cohn-Bendit qui a très bien résumé ça. Il a dit que s'il y allait hors primaire, s'il n'y allait pas, c'était l'humiliation. Parce que je crois qu'on n'a jamais vu un président
en exercice,
sauf s'il est malade ou empêché de ne pas se représenter, parce que ça veut dire qu'il acte l'échec complètement. S'il y va et qu'il est battu à la primaire, c'est la double humiliation.
C'est ça.
Et s'il est, voilà, donc de toute façon, mais il va y aller, forcément, parce que sinon, ça voudrait dire, il serait obligé de dire, écoutez, de se présenter aux Français en disant, j'ai complètement échoué, j'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas marché, je pense pas qu'il fera ça, donc je pense qu'il va y aller.
Alors, Éric Métou, c'est vrai qu'on cherche toujours des soutiens à François Hollande. Alors, il y en a un aujourd'hui qui s'est exprimé sur France Info, c'est Michel Sapin, voilà, quand même le fameux grognard. Hein, voilà, exactement. Alors, lui, il a dit clairement, sans problème, François Hollande, c'est le meilleur candidat pour rassembler la gauche.
Bah, il ne peut pas dire le contraire.
Enfin, oui, mais pour rassembler la gauche, ça semble étonnant aujourd'hui, parce que c'est cette gauche, même gauche, qu'il critique.
Oui, enfin, on est dans le domaine de l'incantation. Effectivement, la grande force de Hollande, c'est qu'il a toujours gagné contre les pronostics. Donc là, il imagine qu'il va encore gagner contre les pronostics. Enfin, c'est vraiment de plus en plus difficile et il y a de moins en moins de monde qui y croit. C'est d'ailleurs assez remarquable qu'il reste encore autant de, même de people, à aller à la Bellevilloise pour faire la fête pour François Hollande. Oui, enfin, il a de moins en moins de proches, c'est-à-dire qu'il a de moins en moins de sapins. Il va rester sapin, le fol,
Marisol Touraine.
Ceux qui ont encore un intérêt aussi, parce que c'est pas simplement de la fidélité, c'est aussi de la stratégie politique pour après. Marquer leur loyauté. Il y a aussi ça dans ces discours.
On va continuer à en parler. Audrey Goutard, ne vous inquiétez pas, pas de panique. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Un administrateur présumé du site Zone Téléchargement mis en examen ce soir à Toulouse. Le suspect interpellé il y a deux jours dans le sud de la France est notamment poursuivi pour contrefaçon, blanchiment aggravé et travail dissimulé en bande organisée. Le site de téléchargement illégal a été fermé par décision de justice. Un second administrateur présumé interpellé lui en Andorre est toujours en attente d'extradition vers la France. La mort ce soir d'un cinquième patient qui avait reçu une greffe de cœur Carmat, c'est l'Agence nationale de la sécurité du médicament qui l'annonce. Le patient avait été opéré cet été et est mort en octobre. C'était le premier d'un groupe de 20 personnes à recevoir la greffe d'un cœur artificiel. Carmat se défend ce soir, la prothèse n'est pas impliquée dans ce décès selon le fabricant. C'est une première en France, un centre hospitalier reconnu coupable d'avoir délibérément exposé des salariés à l'amiante. Le CHU de Besançon est condamné pour avoir mis en danger la vie d'une quarantaine d'employés pendant plus de 4 ans. Légère condamnation à une simple amende avec sursis, mais c'est inédit pour un établissement public. Le maire d'Alep Est demande de mettre fin à un génocide en Syrie. Nous avons reçu tout à l'heure dans les studios de France Info Brita Hani Hassan en visite en France. Il demande l'ouverture d'un couloir humanitaire sécurisé pour évacuer la population de sa ville actuellement sous les bombes. Mais il a prévenu, les habitants des quartiers Est d'Alep ne feront jamais confiance à ceux qui les tuent, Bachar al-Assad ou son allié russe. Un haut responsable de l'ONU prévient ce soir, si les combats ne cessent pas et que l'aide humanitaire reste bloquée, Alep va devenir un gigantesque cimetière.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, si vous nous suivez depuis lundi, il me semble qu'on a tout eu au sommet de l'État, c'est-à-dire on a eu la crise, on a eu l'apaisement, maintenant... Silence radio, on peut dire ça totalement. Audrey Goutard, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, finalement, que Hollande, qui souhaitait ses primaires pour contrer, alors c'est de la stratégie politique, pour contrer finalement les frondeurs, une candidature des frondeurs, aujourd'hui s'est mis dans un piège, véritablement avec ça?
Ah bah clairement, il s'est mis dans un piège. Et d'ailleurs, vous avez entendu peut-être Jean-Pierre Mignard, qui est un de ses amis, oui, un de ses proches, qui disait, après tout, est-ce qu'il faut vraiment aller aux primaires? Est-ce qu'on peut pas contourner les primaires? Un président en exercice peut se passer de ce genre d'élection. Donc évidemment que c'est qu'il sente le piège et que c'est presque cornélien. C'est piégé aux primaires et ensuite battu peut-être au premier tour des élections. Donc voilà, ils sont face à ça et le piège, il est là, oui.
Alors Caroline Mécari, souvent ce qu'on dit finalement, c'est François Hollande, aujourd'hui on a l'impression que, en effet, n'imprime plus, parce que quoi qu'ils disent, finalement les gens ne écoutent plus. Et Stéphane Le Foll disait, mais pourquoi on n'arrive pas à présenter un bilan? Il y a des points positifs du quinquennat, pour eux il y en a certains, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'arrivent pas du tout à les présenter, ces points-là.
Alors, à part le mariage pour tous, moi, je vois pas tellement quels sont les points positifs. Enfin, je sais pas comment vous répondre là. Excusez-moi, je reste un peu sans voix.
Sur cette question, non, parce qu'en fait, pour eux, ils ont inversé. Voilà, la courbe du chômage, ça commence.
Non, ce genre de choses. Voilà, exactement. Mais non, mais le bilan en réalité, il est pas bon. Tout le monde le sait, et surtout, le bilan de François Hollande, au fond, c'est qu'il a totalement fractionné la gauche. Il l'a totalement, voire pulvérisé. Moi, je considère que c'est un fossoyeur de la gauche aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est dans un tel état. Et aujourd'hui, il est uniquement dans des logiques de stratégie pour pouvoir se représenter et rien d'autre. Donc tout le reste est inaudible, y compris éventuellement les quelques points où ça a pu être quelque chose de positif. Mais donc voilà quoi.
Éric Métou, est-ce qu'il a raison finalement de jouer la montre aujourd'hui, François Hollande?
Bah, c'est la seule chance qui lui reste. C'est-à-dire que là, le problème de la primaire, en dehors du fait qu'il va se retrouver effectivement dans une situation difficile, c'est que c'est dans maintenant un peu plus d'un mois.
Ouais, c'est ça, fin janvier.
Et que je ne vois pas comment. Matériellement, il peut retourner la situation dans un délai aussi court. Donc la seule chance qu'il aurait, effectivement, et c'est ce que tente Mignard quand il dit ça, c'est-à-dire de contourner la primaire et de se dire, je vais gagner 5 mois, et en 5 mois, je vais retourner un petit peu plus la courbe du chômage, ce à quoi personne ne croit sauf lui, mais en tout cas, il se dit qu'il peut le faire. Et puis, la situation peut changer. Fillon peut se révéler pour ce qu'il est, c'est-à-dire un candidat ultra-conservateur. Donc, il parie là-dessus. Mais il n'arrivera pas à contourner la primaire. C'est trop tard, c'est fini.
Il y a un argument des soutiens de Hollande qui interpelle, je trouve, c'est de dire si c'est Valls, hein, c'est la meilleure façon de fractionner complètement le PS. Parce qu'effectivement, Valls est beaucoup plus clivant, finalement. Bon, Hollande, voilà, malgré effectivement un passif difficile, il a effectivement ce soutien d'une partie du PS, je ne sais pas, mais que Valls serait fractionnerait.
Il n'a plus beaucoup de soutien par rapport au début, quand même. Il a à peu près actuellement 40 députés qui le soutiennent. Il faut rappeler aussi que le livre d'Ave et l'Homme, un président ne devrait pas dire ça, ça a été une catastrophe. Par exemple, des ménisques le soutenaient comme Bernard Cazeneuve ou Jean-Luc Le Drian, alors là, on ne les entend plus.
Oui, c'est vrai.
Donc moi, je pense que Valls ne pourra, comme vous disiez, ne pourra pas casser davantage la gauche que ne l'a fait François Hollande. C'est François Hollande qui... il y a Cambadélis qu'on devrait décorer de l'ordre du Parti Socialiste, je pense, parce que lui, il fait tout ce qu'il peut pour sauver le parti.
Alors, Irène Hachespé, on va parler dans un instant de...
Mais il n'y arrivera pas.
On va parler dans un instant de Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un péril, finalement, pour le Parti Socialiste, c'est-à-dire tout simplement d'exister demain, d'apparaître encore comme une force politique?
Ah oui, moi je pense qu'il y a clairement un risque d'éclatement du Parti Socialiste après l'élection, hein, parce qu'avec des gens peut-être qui vont se retrouver autour de la ligne Valls, peut-être, et puis Jean-Luc Mélenchon qui compte dans le paysage politique maintenant, qui va ramasser peut-être la gauche du Parti Socialiste. Je pense qu'il a enterré le Parti Socialiste peut-être pour 20 ans.
Quand vous parlez avec des femmes ou des hommes politiques qui sont dans les partis politiques aujourd'hui, en tout cas à gauche, tous disent de façon, me semble-t-il, assez lucide que ce qu'on appelle la gauche dans son arc le plus large est en décomposition et que la présidentielle est perdue, je ne devrais pas dire ça, mais quand même je le dis, et qu'en fait les forces sont en train de se placer pour une recomposition à gauche après cette présidentielle. Voilà.
Après
2017. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait possible, en effet, que le Parti Socialiste éclate disparaisse. De toute façon, c'est avec une recomposition peut-être plus à gauche.
Alors, justement, on va le voir, puisque pendant ce temps-là, à gauche, eh bien, ça continue son insoumission tranquillou, on va dire ça, hein, la France Insoumise, tel est le nom du mouvement lancé par Jean-Luc Mélenchon pour le mettre sur la voie de lancement vers l'Élysée en 2017. Alors, ces derniers temps, il n'avait pas trop la forme, en fait. Jean-Luc Mélenchon, il s'accroche avec Cohn-Bendit sur le plateau de France 2, il nous parle de quinoa, alors, et puis la mort de Fidel Castro, ça l'a retourné, on l'a vu. Désormais, il s'imagine en leader maximo made in France et il s'attaque aux contre-révolutionnaires camouflés dans le maquis de la Sarthe, emmené par François Fillon, ou El Fillon, comme on dit, parce qu'on reste dans la thématique tropicale. Hier, son meeting à Bordeaux, le candidat de la France Insoumise a ciblé son adversaire avec des mots qui lui sont propres, Jean-Luc Mélenchon.
Les gens ont parfaitement compris que si ce type peut vous annoncer qu'il va faire une blitzkrieg, c'est parce qu'il a une constitution qui est un coup d'État permanent. Et le coup d'État permanent, Monsieur Fillon va l'utiliser pour faire un coup d'État social. Sa politique, c'est un coup d'État social. C'est la destruction de la sécurité sociale. C'est la destruction du code du travail. C'est un coup d'État social.
Ouais, Jean-Luc Mélenchon, pleine forme. Hier, à Bordeaux, coup d'État social, Éric Métou, je voyais ça vous faire rigoler.
Je rigole parce que je pense que là, sur cette image, il est pas très loin du col Mao. Après Castro, on va réhabiliter Mao.
Coup d'état social, c'est fort quand même. Enfin, là, quand il dit ça par rapport à François Fillon.
Voilà, il est dans la stratégie politique. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de Hollande et voilà, il essaye de se poser comme étant l'interlocuteur principal de Fillon. Donc il tape fort. Et puis après, c'est Mélenchon. Donc, on sait qu'il a le sens de la formule. On sait qu'il a pas peur de pousser la caricature un peu loin. Donc, c'est ce qu'il a fait hier soir.
Irène Achospé.
Oui, il parle du coup d'état social. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que, à mon avis, le FN et Mélenchon vont aller sur les mêmes terrains pour contrer Fillon. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'effectivement, il va tout casser, la sécurité sociale. Alors que franchement, François Fillon, il faut dire qu'on est dans un pays qui est tellement drogué à la dépense publique que dès qu'on dit qu'on va toucher quelque chose, on est ultra-libéral et ça ne tient rien. Je rappelle juste que les dépenses publiques en France, c'est 57% de la richesse nationale qui veut les ramener à 50%. On sera encore au-dessus de la moyenne européenne qui est 46%, et ne parlons pas de l'Allemagne qui est à 43%. Alors coup d'état social, non, il fait pas une politique satirienne, il ne fait pas de privatisation, il laisse filer le déficit budgétaire, il fait une politique familiale, et c'est pas du tout... Ce n'est pas un coup d'état social.
Coup d'état social de la part de François Fillon si jamais il est élu.
Non, ça sera pas ça.
Une politique de droite.
Une politique de droite conservatrice.
Moi, je l'aurais pas dit comme ça, évidemment, je n'aurais pas parlé d'un coup d'état social, mais je comprends pourquoi Jean-Luc Mélenchon utilise ce terme, parce que ça frappe les esprits. Et pourtant, il dit vrai, hein, Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'en effet, quand vous regardez de près le programme économique proposé par Fillon, c'est vraiment un programme économique ultra-libéral.
Non.
Avec ces 500 000 fonctionnaires qui vont disparaître, et ça va toucher toute la fonction publique, hein, nationale, territoriale et hospitalière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des policiers en moins, des gendarmes en moins, des infirmières en moins, des professeurs des écoles en moins, des magistrats en moins, etc. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, vous avez toute la casse de la sécurité sociale. Vous avez par ailleurs les choix fiscaux, c'est-à-dire la suppression de l'ISF qui touche à peine quelques centaines de milliers de personnes. Vous avez la hausse de la TVA de 2 points. Donc oui, en effet, quand on sortira du quinquennat de François Fillon, si jamais il est élu, nous serons plus exsangues. Et ça, c'est la voie royale pour Marine Le Pen.
On va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h20, Pierre-Yves Bonneau.
Je
ne
suis pas en accord avec vous.
Non.
Le peuple syrien a perdu toute confiance dans la communauté internationale. Le cri d'alarme du maire des quartiers Est d'Alep ce soir sur France Info. Il était à Paris tout à l'heure pour rencontrer Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères. Et il est passé par nos studios. Selon Brita Agi Hassan, les puissances occidentales ne sont pas au niveau de leurs responsabilités, incapables de raisonner la Russie, selon lui. La réunion d'urgence de ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU est la dernière chance, insiste-t-il. 12 ans de prison pour avoir tué 2 policiers en percutant de plein fouet leur voiture sur le périphérique après une course-poursuite en 2013. Le verdict a été rendu ce soir par la cour d'assises de Paris à l'encontre de Malamine Traoré. Il roulait ivre et sans permis, mais a toujours déclaré ne pas avoir voulu percuter cette voiture. La gauche tire ses premières flèches sur la cible Fillon dans l'émission Questions d'info ce soir en partenariat avec France Info. Michel Sapin critique la volonté de gouverner par ordonnance formulée par le candidat de la droite à la présidentielle. Selon le ministre de l'économie et des finances, François Fillon est en train de cocher toutes les cases à droite. Michel Sapin qui confirme son soutien à François Hollande, le mieux placé pour rassembler la gauche et les Français en 2017, selon le ministre. C'est un accord historique. Les 3 principaux pays exportateurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, l'Irak et la Russie vont réduire leur production. Un accord a été trouvé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, afin de limiter la production mondiale d'or noir, ce qui devrait avoir très vite une influence négative sur le prix du carburant à la pompe.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, avec ce soir l'avocate Caroline Mécari, Irène Achospé de l'Opinion, Éric Métou de l'Express et Audrey Goutard de France Télévisions. Nous parlons de François Fillon, ce que Jean-Luc Mélenchon a accusé, donc le candidat de la droite, hein, d'opérer, s'il est élu en 2017 à l'Élysée, un coup d'état social. Juste, Irène Achospé, je ne voyais pas du tout d'accord avec ce que disait Caroline Mécari sur ce terme, justement, ultralibéral pour vous, ça ne convient pas du tout.
Ah non, c'est pas ça, ultralibéral. Ultralibéral, c'est effectivement privatiser, c'est casser les rangs. différentes. C'est pas du tout ce que fait François Fillon.
Ah non, proposer par exemple que la sécurité sociale ne rembourse que les affections de longue durée, que tout soit mutualisé.
Non, il n'a pas du tout dit ça.
C'est ce qu'il a dit. Il a fait un document de 16 pages très détaillé sur la casse de la sécurité sociale.
Oui, mais hier, vous l'avez entendu à France 2.
Non, mais attendez, entre ce qu'il dit à la télévision juste pour rassurer les petits vieux.
Non, il est en campagne, il va préciser.
Il dit exactement ce que les gens ont envie d'entendre à un moment donné.
Il n'est pas populiste, ça, vous pouvez pas dire ça. Et moi, je vous dis que la meilleure protection sociale, c'est l'emploi.
Ah, mais là, on est bien d'accord. Et donc, 500 000 fonctionnaires de moins, c'est l'emploi, peut-être?
Et que la situation actuelle, je vois pas comment vous pouvez dire que ça sera pire avec Fillon. Vous avez 25% de chômage chez les jeunes. Vous avez les Restos du Cœur qui tournent à plein. Et vous avez un Français sur deux qui considère que son enfant vivra moins bien que lui.
Et quel est le plan de relance que propose François Fillon, le plan d'investissement? Rien.
Voilà. Le plan d'investissement, il allège les charges d'entreprise, il améliore leur compétitivité. C'est le seul programme je dis pas que c'est génial, je dis pas qu'il y a des idées très novatrices, c'est le seul programme qui nous permettra de sortir de la situation.
Juste une chose,
Audrey Goutard.
Non, il est pas du tout.
Moi, je trouve ça passionnant parce qu'on voit à quel point, effectivement, cette campagne va être clivante et intéressante.
Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que disait tout à l'heure Irène Achospé sur, par rapport à Marine Le Pen. Parle du programme de François Fillon, pardon, voilà, justement, comme de. Une casse sociale. Marine Le Pen parle du programme de François Fillon comme une casse sociale. Est-ce que ça va être plus compliqué pour Jean-Luc Mélenchon, qui est également sur ce terrain-là?
Il est exactement sur ce terrain-là, mais ça va être plus compliqué parce que pour l'instant, il n'a pas. Enfin, on fait beaucoup de reportages en ce moment dans les régions et on voit la progression, notamment pour différentes raisons, dans le sud pour des raisons communautaires, dans le nord pour des raisons économiques, l'installation de Marine Le Pen. Elle est installée, elle est là. Je pense que effectivement, c'est les électeurs de Marine Le Pen se retrouvent dans certains propos dans beaucoup de propos économiques de Mélenchon. Mais voilà, c'est pas. D'ailleurs, Mélenchon ne s'est pas trompé. Vous avez vu, il ne s'est jamais adressé à Marine Le Pen. Il n'a pas évoqué le nom de Valls ou de Marine Le Pen dans tout son discours. Mmh. Il s'est adressé qu'effectivement qu'à Fillon, comme vous l'avez dit. Et je voulais juste noter.
Je vous en prie.
Je voulais juste noter un petit point que j'ai trouvé intéressant aussi là-dedans, dans cette histoire de coup d'État social, et toutes ces attaques contre Fillon. Il y a juste un point sur lequel il s'est retrouvé complètement d'accord avec M. Fillon, c'est Poutine.
Voilà,
c'est ça. Et ça, c'est passionnant. J'ai trouvé ça intéressant.
C'est ça, Éric Métou, finalement, maintenant, ils sont de plus en plus, presque, quand on voit trois candidats à soutenir Vladimir Poutine. Jean-Luc Mélenchon,
Je rapprochais Fillon de Mélenchon juste parce qu'ils ont un point de jonction sur
Poutine.
Non,
je ne le rapprochais pas.
Mais
c'est juste que ça.
Mais Poutine, c'est l'anti-américanisme. Enfin, je veux dire, d'abord, c'est l'autoritarisme qui plaît autant à Fillon qu'à Marine Le Pen et à Mélenchon. Mélenchon, il est droit dans ses bottes. Quand on défend Castro, on défend aussi l'autoritarisme. Et Poutine, c'est un autoritaire. Et puis derrière tout ça, alors pour Fillon peut-être un peu moins, mais en tout cas pour Marine Le Pen et pour Mélenchon, c'est l'anti-américanisme primaire, primitif. Ils sont très contents. Paradoxalement, que Trump soit arrivé au pouvoir aux États-Unis, parce que c'est un candidat qui, d'une certaine manière, leur ressemble. Mais, le moteur de Poutine, c'est deux choses. C'est l'anti-américanisme et l'autoritarisme.
Alors, une chose, c'est vrai qu'on a vu, Karine Mikari, Jean-Luc Mélenchon, là, par exemple, aujourd'hui, a beaucoup tweeté sur le verdict, par exemple, sur Air France, sur les syndicalistes qui avaient arraché une chemise, etc. Donc, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, il peut récupérer cette colère qu'on a vu poindre l'année dernière, notamment colère sociale, par exemple, contre la loi El Khomri, cette gauche dans la rue, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut la récupérer, justement, à votre avis? Est-ce que c'est le candidat de...
Je suis pas certaine qu'il arrive, en effet, à récupérer cette colère sociale que vous évoquez, qui est, au fond, tout à fait justifiée quand on voit ce que les gens vivent au quotidien, un peu partout en France. Je ne sais pas pourquoi en réalité. Mmh. Pourquoi c'est Marine Le Pen en fait qui la récupère? Peut-être que son propos est plus démagogique. Je n'en sais rien.
Parce que la France penche à droite, comme l'Europe les États-Unis penchent à droite, et que là où Mélenchon, les limites du discours de Mélenchon et du succès de Mélenchon, il va se heurter à ce mur-là. C'est-à-dire que la France n'est plus à gauche. Enfin, si on fait la somme des Républicains et du Front National, quand même des partis de droite, on peut pas faire plus à droite. La France, elle est à 65%, voire 70% à droite.
Oui, ça fait un petit peu de temps. Irène Achospé, pour vous, justement, cette colère qui s'est manifestée au printemps, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon peut être ce candidat de récupérer cette colère-là?
Je suis assez d'accord avec vous, ça va plutôt vers Marine Le Pen. Il faut dire que là, il y a une espèce de doudou politique qui est d'être anti-système. Macron est anti-système, alors tout le monde est anti-système.
Même Fillon.
Oui, exactement.
Mais après 40 ans de politique,
Mélenchon est anti-système.
Mais celle qui a commencé à labourer ce terrain depuis longtemps, c'est quand même Marine Le Pen.
Et son père avant.
voilà, et son père avant. Donc il me semble qu'elle a un avantage compétitif, si j'ose dire, sur ce sujet-là, alors, et que c'est elle qui va ramasser le mécontentement. On sait que de plus en plus de professeurs, enfin même certains professeurs votent Marine Le Pen. Mais, enfin, comme vous dites, hein, je pense que Mélenchon n'arrivera pas.
Vous savez, Irène, hier, on a compté, on a fait un débat là-dessus, il y a 11 candidats qui se réclament anti-système. Aujourd'hui, bien, voilà. Donc celui qui gagnera, c'est celui du système. Allez, dans quelques instants, on parlera IVG et également de pollution dans les informés de France Info. C'est à suivre.
Aujourd'hui, j'ai partagé mes photos sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai partagé ma musique. Et parfois, je partage ma voiture. Mais demain, j'ai aussi envie de partager autre chose, de partager plus. Et si je partageais aussi mon pouvoir en allant donner mon sang?
Comme Adrien et des millions d'autres Français, donnez votre sang et soyez au cœur du partage. Aux côtés des 10 000 collaboratrices et collaborateurs de l'établissement français du sang, engagez-vous pour sauver des vies. 1 million de malades chaque année ont besoin de votre sang. Nous transformons vos dons en vie.
Partagez votre pouvoir. Donnez votre sang.
Établissement français du sang, bien plus que le don de sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Mercedes-Benz.
Et au fait, Cyril, pour ta prochaine voiture de fonction, tu as choisi ?
Oui, je vais sûrement prendre une...
Pardon, je vous interromps. Mais sinon, je sens que vous allez regretter d'avoir choisi une simple voiture de fonction quand vous auriez pu rouler en Mercedes. Vous savez, Cyril, la gamme Mercedes-Benz est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. La Mercedes Classe A, par exemple, est à partir de 23 950 euros. Cela étant dit, je vous laisse terminer.
Une Mercedes.
Ah, on se sent tout de suite mieux.
Prix conseillé pour une Classe A 160 BM 6 intuition.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Les conditions resteront calmes demain, mais la grisaille matinale sera fréquente, notamment près de la Garonne, au nord de la Seine et surtout entre le Val-de-Loire, le Val-de-Saône et le Lyonnais. Localement, les brouillards pourraient être temporairement givrants en tout début de journée. Ces nappes grises vont progressivement s'effacer pour laisser place à une nouvelle journée ensoleillée. Mais par endroits, au nord du Massif central, cette grisaille pourrait rester persistante l'après-midi. Près des frontières belges, des nuages vont déborder, donnant un ciel chargé tout au long de la journée. Partout ailleurs, le soleil va briller du matin jusqu'au soir. Côté température, les minimales seront encore froides avec des gelées généralisées sur la moitié nord. Les maximales seront en dessous des valeurs de saison variant de 4 à 9 degrés sur le nord-est et le centre-est, 8 à 14 degrés sur la moitié ouest et jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir et tout d'abord le football, 15e journée de Ligue 1. On joue la 70e minute sur plusieurs terrains. Toulouse mène face à Montpellier 1-0. 1-0 également en faveur de Nancy face à Metz. 0-0 dans la rencontre Saint-Étienne-Marseille. Lyon domine le FC Nantes 4-0 et c'est à la Beaugeoire. Bastia mène 1-0 face aux Girondins de Bordeaux. Et Guingamp est mené à domicile par l'OGC Nice 1-0 à 21h. Paris Saint-Germain recevra Angers. Le verdict à l'instant dans le procès en assises concernant la mort d'un supporter du Paris Saint-Germain, Yann Laurence, en 2010. Les jurés de la cour d'assises ont condamné un supporter parisien à 3 ans de prison ferme. L'autre, le deuxième supporter parisien jugé dans cette affaire, est lui acquitté. Une marche blanche a rassemblé en fin d'après-midi près de 600 personnes dans les rues de Reims. Un hommage au petit Tony, 3 ans, mort sous les coups répétés de son beau-père. Le meurtrier et la maman ont été mis en examen et écroués. Le carnaval de Granville, distingué, il entre au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour ses chants, rituels et célébrations. Des festivités qui rassemblent chaque année 100 000 spectateurs. Autant dire que cette distinction est une grande fierté pour les organisateurs, parmi eux David Letor.
C'est avant tout une immense fierté pour le carnaval, pour l'ensemble des 2500 carnavaliers qui, chaque année, se les caillent, on va le dire comme ça, dans les rues de Granville. Mais au final, tout ça, bah, ça a un prix et c'est le prix de la victoire et c'est le succès de cette candidature. Voilà, on est clairement dans une sorte de label qui reconnaît une tradition populaire pour ce qu'elle est. L'esprit satirique, l'esprit humoristique, des chars qui traitent de l'actualité locale, de l'actualité nationale, internationale. Il y a une vraie sincérité et un vrai portage du carnaval par la population, par les Grandvillais et les habitants de tout le territoire du Grandvillais. Ça ne sert strictement à rien. En tout cas pour nous, ça n'apporte pas d'argent, ça apporte simplement une reconnaissance, mais clairement ça n'apporte pas d'argent. C'est avant tout une fierté pour nous et pour le tout le temps qu'on peut être amené à y passer pendant 6 à 8 mois de l'année.
Et la 143e édition de ce carnaval de Granville est déjà programmée du vendredi 24 au mardi 28 février 2017. À noter que les bières belges, mais aussi la rumba cubaine, sont entrées au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 20h33 sur France Info, les informés reviennent avec Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h hein, sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec l'hashtag Les Informés. Également sur le canal 27 de la TNT, eux ils sont en forme, ils ont même la chepée dans une belle envolée, années 80-90, on va dire ça. Et autour de la table des informés de France Info, nous trouvons l'avocate Caroline Mécari, Irène Achospé du quotidien L'Opinion, également Éric Métou de L'Express et Audrey Goutard de France Télévisions. Le tuning c'est super, hein, comment ne pas apprécier les voitures avec une sono de 2000 watts, des flammes sur les la moquette sur les sièges. Le gouvernement vient en aide aux fans de tuning parisiens en leur proposant de nouvelles vignettes anti-pollution à partir de mi-janvier. Tout ça ne règle pas la fronde des maires hein, de la périphérie parisienne qui n'en peuvent plus de la fermeture des voies sur berge, la voiture objet de révolte du 21e siècle. On voit ça à 20h45, car avant nous allons parler de l'IVG. Alors l'IVG, trois lettres hein, qui sont revenues dans les discussions pendant la campagne du deuxième tour des primaires des Républicains. Alain Juppé demandant à François Fillon de préciser son opinion sur la question de l'interruption volontaire de grossesse. Désormais, c'est un texte de loi qui fait parler. Demain, à l'Assemblée nationale, Laurence Rossignol, ministre des droits des femmes, portera un projet de loi visant à étendre le délit d'entrave d'interruption volontaire de grossesse au site internet diffusant des informations biaisées sur l'avortement. Le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Georges Ponty, a écrit une lettre ouverte hein, au président de la République dans laquelle il lui demande de s'opposer à cette proposition. Et des députés, les Républicains, estiment qu'il s'agit là d'une entrave à la liberté d'expression. Et selon ses opposants les plus virulents, cela va même plus loin, comme l'association anti-avortement Alliance Vita et sa présidente, Caroline Roux.
Des associations, des médecins peuvent se sentir concernés par une forme de police de la pensée qui viendrait regarder ces informations, les juger. Donc ça, c'est une première chose. Donc le fait que l'Église et d'autres personnes et des associations se lèvent contre ce délit, c'est bien normal.
Voilà, Caroline Roux, donc présidente de l'association Alliance Vita Anti-Avortement sur la chaîne catholique KTO. Alors forcément, Caroline Mécari, ce qui revient, je me tourne vers vous, c'est sur la liberté d'expression. Ça, c'est un terme, l'angle d'attaque justement contre cette loi, ce projet de loi, c'est ce délit toucherait la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, d'abord, je pense qu'il est vraiment important de rappeler que l'IVG, c'est devenu un droit fondamental qui a été conquis vraiment de haute lutte pour les femmes. C'est vraiment quelque chose qui est très important.
40 ans.
Et qu'il est tout à fait normal et légitime que les femmes puissent être informées sans de manière, j'allais dire, neutre et objective. La proposition d'amendement faite par Laurence Rossignol, oui, de pénaliser une présentation biaisée telle qu'on peut la voir sur Internet, en tout cas sur certains sites, à mon avis, est une mauvaise idée, en fait. Je trouve que ça ouvre la boîte de Pandore. Et au risque de vous surprendre, en effet, il y a quelque chose qui relève de l'atteinte à la liberté d'expression. Il y a, d'ailleurs, j'ai regardé le texte hein, oui, qu'on se propose d'adopter, et quand je l'ai lu, il est très compliqué, et je me suis vraiment dit, mais comment les policiers vont pouvoir qualifier oui, l'infraction. Si vous voulez, il y a dans l'arsenal aujourd'hui pénal français suffisamment de textes, comme par exemple la poursuite de fausses informations ou les attaques ad hominem avec la loi sur la presse, qui permettent, qui sont des limites à la liberté d'expression dans un cadre très précis. On peut être contre l'IVG. On a le droit.
Alors là, il parle d'information biaisée. En fait, c'est
oui,
ça
mais,
la ministre.
Le problème, c'est que d'information biaisée, de quelle manière? Alors, réellement, la qualification pénale me paraît extrêmement périlleuse et je trouve que c'est une boîte de Pandore qu'on aurait mieux fait de ne pas ouvrir. Parce qu'il y a d'autres moyens.
Et puis en plus, c'est une plateforme qu'on donne une fois de plus à ces gens, à ces lobbies qui peuvent s'exprimer, qui n'attendent que ça, finalement, des propositions comme celle-là pour pouvoir s'exprimer sur ce thème. Alors que. Est-ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'avait pas besoin de proposition de loi, on a juste besoin d'être plus malin qu'eux. C'est-à-dire
qu'à
un moment donné, c'est des problèmes de référencement. Si effectivement ces sites se retrouvent en tête lorsque vous tapez avortement, renseignement, etc., information, si ces sites se retrouvent en tête, c'est parce que ces lobbies sont forts, sont costauds, savent s'organiser. On doit leur reconnaître ça, et que effectivement l'État est nul en la matière, qu'ils ne savent pas s'organiser, qu'ils ne savent pas, c'est quand même le numérique, c'est pas si compliqué que ça, de faire en sorte qu'effectivement ces sites passent derrière les sites d'information de l'État et voilà. Mmh. Et une fois de plus, on se retrouve avec une histoire de droit à l'information atteinte à la liberté d'expression, etc. C'est pas du tout le propos. Le propos, c'est que techniquement, l'État est lamentable et nul dans ce genre de d'opération.
Il y a aussi ce terme de biaisé aussi, Irina Chauspé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu certaines femmes appeler finalement ces lignes directes pour savoir dans un état de savoir se poser des questions et en fait, on les aiguillait finalement. Oui. Une autre voie que celui de l'IVG.
Oui, mais ça, c'est de la fausse information. Oui, il existe déjà une infraction pour diffusion de fausse information.
Moi, ce que je trouve, quand on va sur ce site, effectivement, c'est le premier qui sort. Le deuxième qui sort, quand même, c'est celui du gouvernement. Donc, ils ne sont pas très loin. Ouais. Moi, ce que je trouve aussi que la pénalisation n'est pas une bonne idée, parce que la police du net, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait interdire?
C'est la boîte de Pandore.
Il y a des sites médicaux qui racontent n'importe quoi. Je trouve quand même que ce qui serait important, c'est que sur ce site en particulier, on ne sait pas, il n'y a pas l'anglais classique qui sommes nous. Et ça, je trouve qu'on devrait quand même être obligé, puisque la députée qui présente le projet de loi, Catherine Coutel, a dit dans le débat à la commission des affaires sociales que c'était l'association SOS Détresse qui sont clairement anti-IVG. Donc, je pense que ça, on pourrait quand même exiger. Je pense que c'est possible mette juste qui sommes-nous. Et je pense qu'après, on peut faire confiance à l'intelligence des femmes quand même qui consultent ces sites pour se dire ah tiens, c'est des anti-IVG.
Non, c'est des jeunes filles de 16 ans, 17 ans. On peut pas.
Elles sont au courant de ce qu'on trouve sur Internet, qui enfin je pense qu'elle
influençable, etc. C'est franchement, excusez-moi, mais c'est vraiment ces sites-là peuvent être tout en bas de la liste.
Oui, absolument.
Et c'est pas compliqué
alors,
à faire.
Moi, je crois que c'est
comme
compliqué.
Par hasard,
on va continuer.
Non, je crois que c'est très compliqué.
On va continuer à en parler dans un instant de l'IVG. Pardon, l'info à 20h40. Pierrick Bonneau.
Environ 600 personnes rassemblées ce soir à Reims pour une marche blanche en mémoire du petit Tony. Cet enfant de 3 ans est mort samedi dernier, victime des coups répétés du compagnon de sa mère. Des gerbes blanches ont été déposées devant l'immeuble où habitait le garçon, de même que des bougies. Les participants ont également lâché des ballons dans le ciel de Reims. L'Agence nationale de la sécurité du médicament demande ce soir la suspension de toute implantation de cœur après la mort d'un cinquième patient qui avait reçu une greffe Carmat. Le patient avait été opéré cet été et est mort en octobre. C'était le premier d'un groupe de 20 personnes à recevoir la greffe d'un cœur artificiel. Carmat se défend ce soir. Selon le fabricant, pas de lien entre la prothèse et la mort de ce patient. 10 ans de prison en Hongrie pour un réfugié syrien qui a eu le malheur de lancer des pierres sur les forces de police à la frontière serbe l'an dernier. Ce délit est considéré comme un acte de terrorisme dans le droit hongrois. Sa condamnation est la plus lourde prononcée contre un migrant depuis le début de la crise des réfugiés en Europe. Un mot enfin du revolver avec lequel Verlaine blessa Rimbaud en 1873. On vous en parle depuis ce matin. Il vient d'être vendu aux enchères 434 500 € par la maison de vente Christie's à Paris. On ne connaît pas encore l'acheteur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas présent dans la salle. Il a enchéri par téléphone.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du texte que présentera demain la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, un projet de loi visant à étendre le délit d'entrave au sujet de l'interruption volontaire de grossesse, et notamment sur Internet. Éric Métou, pour vous, aujourd'hui, c'est une loi, on a besoin de faire cette loi, c'est important.
Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce qui s'est dit là autour de la table. Je rajouterais même que c'est une loi imbécile, dans le sens où elle permet à ces gens-là, dont c'est la position favorite, de se poser en martyr. de la liberté d'expression, de la laïcité, de l'extrême laïcité, etc. Donc c'est, non, enfin, ça n'a pas de raison d'être. En plus, il y a effectivement un arsenal législatif qui permet de le faire aujourd'hui. En revanche, je voudrais quand même dire une chose, c'est que j'aurais bien aimé que Monseigneur Pontier fasse un courrier à François Hollande quand l'Église a interdit, s'est battue pour interdire Crispiste. J'aurais bien aimé que les députés, les Républicains qui aujourd'hui se battent pour la liberté d'expression, se battent de la même manière pour la liberté d'expression d'ACT UP qui se bat contre le sida. Il y a une hypocrisie dans cette démarche. Qui est insupportable, qui est non seulement insupportable, mais qui en plus sent pas très bon.
Juste une chose, Éric Métaux, je reviens avec vous. On parle beaucoup depuis tout à l'heure sur Internet. Ça veut dire aujourd'hui, on voit que finalement, ça s'est véritablement développé sur Internet. Ces sites où on ne sait pas trop où on va, forcément, encore quand on se pose beaucoup de questions, parce que c'est pas un acte anodin non plus. Il faut bien le dire et encore le redire sur l'IVG. On voit quand même. C'est assez étonnant de trouver en tête, quand on tape dans un moteur de recherche, ces sites-là.
Ça vaut pour l'IVG, mais ça vaut pour à peu près tous les sites de fake, donc tous les mensonges en fait. Ce qui marche le mieux sur Internet, c'est le mensonge, c'est le complotisme, c'est encore une fois les grosses ficelles. Pourquoi ? Parce que les gens, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, ils sont nombreux à le faire. Là, il suffit par exemple que sur le site de l'IVG, il y ait les 300 000 manifestants de la Manif pour tous qui viennent vraiment cliquer, pas envoyer des machines pour cliquer à la place du gouvernement sur le site du gouvernement, mais qui viennent vraiment cliquer sur le site, qui se passent ce site, qui font des liens sur le site, etc. Et ça remonte naturellement. Et ça c'est imparable. Aujourd'hui, on arrive à le parer nulle part.
Alors, Caroline Mécari, par rapport à ce projet de loi, forcément, et ces associations, elles disent, ben voilà, ben, à ce moment-là, nous aussi, on nie toute opposition, même intellectuelle, à l'IVG. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'exprimer du tout. Pour eux, c'est un bâillonnement.
Non, mais c'est pour ça que je dis que cette proposition de loi, enfin, ce projet d'amendement n'est pas une bonne idée, parce que ces associations, j'ai envie de dire, ont le droit, en effet, de penser que l'IVG, ce n'est pas bien, que l'IVG fait telle ou telle chose, etc. Mais la pénalisation n'est pas une bonne solution. C'est vraiment pas une bonne solution. Et en revanche, ce texte leur permet de se poser en martyr, parce que vous l'avez très justement souligné, aussi bien le président de la Conférence des évêques que toutes ces associations ne montent jamais au créneau pour défendre la liberté d'expression lorsqu'elle n'est pas dans leur registre. Ce sont des gens qui sont de vrais tartuffes, qui ne défendent qu'une seule chose, leur vérité, qui ne supportent pas la différence, qui ne supportent pas l'altérité, et cette proposition de loi ne fait que leur donner du grain à moudre pour se positionner, entre guillemets, en martyr.
Alors Audrey Goutin, on voit quand même que c'est un sujet, on vient de fêter les 40 ans, hein, l'année dernière, de la loi Veil, on voit que c'est quand même un sujet, j'avoue que moi, enfin, on suit, les informés de France Info, on a suivi cette campagne des primaires des Républicains, on s'attendait pas à ce que ce sujet soit dégainé, parce que on a l'impression que dès qu'on sort ces trois lettres, forcément ça va enflammer le débat. Toujours
vrai.
Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose en France de tendu.
Oui, et puis de toute façon, on est dans un débat, on est dans une campagne qui va être sur les débats de société. On sent bien qu'on rentre dans l'intimité des gens, des couples, des familles. Voilà, on est dans une époque comme ça. On le voit dans d'autres pays aussi. Pardon, mais c'est vrai. Et c'est vrai que l'IVG, qui est une loi, qui est un droit, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un droit fragile. Et que on en a parlé lorsque Monsieur Fillon s'est exprimé au sujet de l'IVG, même s'il dit que il ne remettra rien en cause, on sent bien que c'est encore fragile, que s'il suffit de supprimer un budget du planning familial pour que l'IVG, ça devienne un vrai parcours du combattant pour les jeunes filles. Donc on se rend compte aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est que aujourd'hui, effectivement, rien n'est gagné. C'est encore un débat, même si Monsieur Fillon dit que ça ne l'est pas. C'est encore un débat. Ça va être encore un débat de campagne. Les femmes n'ont, le curseur est pas si simple, est pas si net, et c'est pas encore acquis.
Mais juste, vous voyez réagir, Caroline Mécari. Vous n'étiez pas d'accord.
Non, c'est pas ça. C'est que, il y a un mouvement réactionnaire très clairement qui est actuellement en France, et pas d'ailleurs qu'en France, en effet. Qui cherche à remettre en cause des droits qui ont été acquis, durement acquis, et le seul intérêt au fond de ce mouvement qui se surgit actuellement, qui est porté notamment par Monsieur Fillon, c'est de faire prendre conscience à tous ceux et à toutes celles qui bénéficient de ces droits que il faut résister à cela.
Pour vous, il pèse vraiment ce mouvement? Caroline Micari, véritablement est, ou pas il, ou il alors est... il est parce qu'il est très présent sur Internet
il est... Il
oui,
est,
mais,
voilà.
Mais est-ce qu'il pèse vraiment ?
La présence sur... Je ne peux pas dire quel est son poids numérique, son poids en termes de quantité, mais en tout cas, dans l'imaginaire collectif, il prend de la place, il occupe un espace très très clairement. Et donc, de fait, même si c'est dans l'imaginaire, dans l'imaginaire collectif, ça devient une réalité. Ça devient une réalité avec laquelle on est obligé de composer. Regardez, vous avez commencé votre intervention tout à l'heure
à la saucisse partie.
À la saucisse partie. Eh oui. Voilà, quelque chose qui est totalement absurde. Tellement absurde, tellement anecdotique, et pourtant on en parle. Et plus on en parle, plus on fait que ça existe. Mmh. Alors qu'il suffirait juste de dire à Ludovine de la Rochère qu'elle parte à Cuba. Là-bas, il n'y a pas de publicité, tout va bien. Elle ne verra pas de photographie de saucisse avec un pain bagna ou je ne sais
non,
quoi.
Un pain hot dog, s'il vous plaît. Voilà, on reste quand même. Attendez, on sépare pas les couples. Hein, vous savez, Caroline Mécari, c'est important. Irène Achospé, sur justement ce droit pour vous, il est fragile aujourd'hui, comme le disait Audrey Goutard ?
Il est fragile. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse soupçonner François Fillon de vouloir remettre en cause le droit à l'avortement.
C'est une ambiance, c'est une ambiance générale. C'est difficile. C'est pas facile.
Non, c'est Alain Juppé qui a remis. Et donc, ça va être.
Non, mais ça venait des propos de François Fillon quand même.
Oui, mais.
C'est un homme public. Il dit publiquement qu'à titre personnel, il n'est pas favorable à l'IVG.
Il a le droit.
Ça a du poids. Le problème, c'est que ça a du grain à moudre à tous ceux qui sont contre l'IVG, qui veulent imposer
je pense que le droit, il a quand même évolué et c'est très bien puisqu'on a supprimé récemment la nécessité de l'état de détresse, vous savez, donc ça a été supprimé. Moi, je trouve que le droit va quand même dans le bon sens. Le nombre d'avortements en France est 200 000, c'est constant.
Il est en diminution de 4%.
Il est en diminution. Enfin, c'est surtout c'est le nombre de femmes qui avortent, mais il y a des femmes qui avortent plusieurs fois dans leur vie. Donc le nombre d'avortements reste constant. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a eu le cas de l'Espagne où les femmes ont dû se mobiliser, le cas de la Pologne. Et avec Trump, il vient de nommer un ministre de la Santé qui est anti-avortement. Oui. Donc je pense que c'est aussi ce qui explique peut-être cette loi, puisque moi aussi, j'ai lu le débat, vous savez, à la Commission des affaires sociales. Donc ils s'inquiètent de ça, même si la loi est une mauvaise idée. Mais je pense que franchement, accuser François Fillon de vouloir revenir à la semaine, c'est une ambiance générale.
François Fillon n'a pas voté le remboursement, voilà. Notamment quand c'était aussi à l'Assemblée nationale.
Qui part de la manif pour tous et qui va aujourd'hui jusqu'à un candidat qui a le soutien de la manif pour tous et qui va probablement être le prochain président de la République française. Donc c'est pas anodin.
Alors oui, il n'y a pas le soutien de la manif pour tous. On m'a rappelé alors d'ailleurs.
Mais sens commun.
Juste une chose. Excusez-moi, Caroline Mécari, mais Éric Métou, demain il y aura une centaine d'amendements qui sont déposés. Contre cette loi, ce projet de loi, on trouve Jean-Frédéric Poisson, par exemple, dedans, qu'on a bien connu. On trouve Marion Maréchal Le Pen dedans. Voilà,
mais encore une fois, j'aurais aimé que ces gens-là se mobilisent de la même manière contre l'interdiction des affiches sur la prévention du sida quand ces décisions ont été prises par des républicains. Mmh. C'est ça le problème de fond. Et c'est là qu'il y a un mouvement que je trouve, moi, dangereux. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation comme ça d'un seul coup, d'abord, c'est une stratégie politique, c'est une manière de se positionner, et c'est une manière d'aller aussi rafler des voix chez Sens Commun et à la Manif pour tous. Et ça,
en tout cas, rendez-vous demain, c'est demain que Laurence Roussel présentera son projet de loi, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Le verdict vient d'être rendu. Jérémy Bane, un ultra du Paris Saint-Germain, condamné à 3 ans de prison ferme. Son co-accusé, Romain Lafont, est acquitté. Les deux supporters étaient jugés pour la mort en 2010 d'un autre supporter parisien lors d'une soirée marquée par de violents incidents entre supporters rivaux du même club. Violemment blessé, la victime avait succombé après 2 semaines de coma. Un administrateur présumé du site Zone Téléchargement, mis en examen ce soir à Toulouse. Le suspect interpellé il y a 2 jours dans le sud de la France est notamment poursuivi pour contrefaçon, blanchiment aggravé et travail dissimulé en bande organisée. Le site de téléchargement illégal a été fermé par décision de justice. Hier, un second administrateur présumé, interpellé lui en Andorre, est toujours en attente d'extradition vers la France. Ce cri lancé par les femmes et les enfants d'Alep est adressé au monde entier et nous espérons qu'il sera entendu. Invité exceptionnel de France Info ce soir, le maire de l'Est d'Alep lance un appel à la communauté internationale alors que la crise humanitaire et l'exode des civils sous les bombes s'intensifient dans sa ville. Britta Agi Hassan appelle à des manifestations partout dans le monde le 10 décembre prochain pour dénoncer les crimes commis par le régime syrien et son allié russe. À Cuba, le convoi transportant les cendres de Fidel Castro quitte la Havane pour un parcours très symbolique autour de l'île. Le chemin inverse de celui parcouru par les révolutionnaires castristes jusqu'à leur victoire en 1959. L'urne contenant les cendres du commandante reposera toute la semaine dans une boîte en verre remorquée par une jeep militaire. L'enterrement du leader cubain est prévu dimanche.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous allons maintenant aborder un dernier sujet, il nous reste peu de temps, c'est un petit peu notre Fifi la girafe à nous depuis le début, hein, parce qu'on en parle presque toutes les semaines, on va le dire. Si vous habitez en région parisienne, le pire cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, c'est pas une flûte, même si on aime cet instrument, c'est un permis de conduire. La circulation devient très compliquée, et notamment dans Paris où la fermeture des voies sur berge n'en finit plus d'enflammer les esprits, pollués depuis la rentrée de septembre. 168 maires d'Île-de-France ont écrit à la maire de Paris, Anne Hidalgo, afin de revoir son projet de piétonnisation, donc des voies sur berge, voulu à la base pour diminuer la pollution. Mais pour la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, le résultat est faible. Les bouchons se multiplient et les temps de transport s'allongeraient. Au départ, c'est juste une simple histoire de santé publique qui devient une histoire totalement politique. C'est le cas d'ailleurs, on va l'entendre, de certains maires, celui de Poissy dans les Yvelines, Carl Olive.
Pardonnez-moi, la santé publique, au contraire, là, on ne la voit absolument pas, puisqu'on est bloqué tous les jours et les administrés se plaignent, sont très en colère. Je dis simplement qu'il faut qu'on soit pragmatique. Une minute de retard pour, par exemple, le SAMU dans Paris, c'est 10% de chance en moins de pouvoir sauver quelqu'un. Voilà, il faut qu'on puisse s'organiser.
Bah, je suis été surpris par Carl Olive, donc, qui parle beaucoup d'ailleurs, maire de Poissy dans les Yvelines, en région parisienne. Éric Métou, donc, c'est donc devenu maintenant une question politique? Cette histoire.
Oui,
de...
moi j'entendais ce matin Ashley Mann qui disait que non, c'était surtout pas une question politique, mais enfin il y a que des maires Les Républicains qui ont posé cette, ou quasiment que des maires Les Républicains, donc oui, c'est une question politique.
Et Valérie Pécresse,
par ailleurs, sur le fond, on juge pas d'une mesure comme celle-là et après trois mois. Alors évidemment, tout le monde savait que ça allait accentuer les embouteillages et qu'à court terme, on respire moins bien le long des voies sur berge quand on est en haut aujourd'hui, mais c'est des mesures à long terme, à moyen ou long terme.
Irène Achospé, c'est vrai que c'est cette méthode, en fait, Anne Hidalgo, c'est-à-dire le passage en force, oui. Clairement. Est-ce que finalement, c'est la meilleure méthode en France, notamment pour faire passer les choses, changer les mentalités à ce niveau-là, sur l'environnement?
Bagnole. Non, moi je crois pas que ça soit la meilleure solution.
Sur la bagnole, il y en a pas d'autres.
Il faudrait quand même les vignettes, tout ça c'est très bien. Au passage, au début, elles devaient être gratuites. On en profite pour faire payer, voilà.
Et là, ça va être €4,50.
Oui, voilà. Au passage, ça renfloue un peu les caisses. Mais le problème,
il y a plus d'impôts.
Le problème, c'est qu'elle aurait dû peut-être prévoir des. C'est toujours ce qu'on dit, c'est qu'il faut améliorer les transports en commun.
C'est le conseil régional.
Mais à force de prévoir, on fait plus rien.
Non, mais on fait plus rien. Là, c'est vrai que pour l'instant, non, mais le problème de passer en force sur leurs questions environnementales qui sont absolument cruciales, c'est qu'on finit par braquer les gens contre. C'est comme la fiscalité écologique qui est absolument nécessaire pour la transition écologique pour que ça produise un effet. Plus vous rajoutez de la fiscalité, plus les gens en ont marre parce qu'il faudrait qu'en échange, on diminue le reste. Enfin, je trouve que passer en force au bout d'un moment, ça peut pas marcher.
Je vais juste préciser quelques chiffres pourquoi c'est fait aussi. Il y a 40 000 morts chaque année en France dû à la pollution des particules fines, des pots d'échappement, et 2500 rien qu'à Paris. Caroline Mécari.
Vous m'enlevez les mots de la bouche parce que je voulais effectivement d'abord commencer par rappeler pour quelles raisons la mairie de Paris a pris cette décision. C'était en effet le nombre de morts qui est considérable du fait de ces particules fines. Et il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez, il y a un moment où il faut prendre une décision, en effet, de réduire la place de la voiture dans l'espace public.
Est-ce que ça aurait pas dû se faire, au niveau de la région, parce que là, c'est vrai que...
C'est une décision qui concerne Paris, elle ne peut pas se faire au niveau de la région, et on voit bien l'instrumentalisation politique qui en est faite aujourd'hui, parce que quand Valérie Pécresse, qui est la présidente du conseil régional de l'Île-de-France, donc, monte au créneau pour critiquer cette mesure, qui ne peut pas être, dont on ne peut pas tirer les conséquences en à peine trois mois, ça c'est juste pas possible. Et quand vous avez plus de 120 maires républicains qui eux aussi montent au créneau des maires de banlieue, on voit bien l'instrumentalisation politique. Nous avons un problème de santé publique qu'il faut résoudre. Il faut évidemment améliorer les transports à Paris et dans l'Île-de-France. Mais ça ne dépend pas que de Paris. Je rappelle que le STIF, qui est le syndicat du transport de l'Île-de-France, est piloté par la région Île-de-France, donc par Valérie Pécresse. Et Paris, il y a une part, mais qui est une part de 30%, c'est tout. Donc,
ça doit bientôt se terminer, donc j'aurais juste qu'on entende Audrey Goutard. Audrey Goutard.
Moi, je suis une bobo qui a abandonné la voiture pour le vélo à Paris. Et donc, je trouve que c'est formidable. Néanmoins, je vois bien que pour les gens qui sont en RER aujourd'hui, c'est absolument épouvantable. Quand les gens sont en bagnole aujourd'hui, c'est épouvantable. Quand vous habitez en banlieue, c'est épouvantable. C'est vrai que... notre maire a raison quelque part de faire passer en force parce que sinon on fait rien, il se passe rien, on l'a bien vu avec les précédents. Mais néanmoins, ce qu'on comprend bien aussi, c'est que c'est un discours qui est inaudible pour les gens qui habitent en banlieue.
Allez, ça doit se terminer, les informés de France Info. On en reparlera sûrement, ne vous inquiétez pas, sûrement jusqu'au mois de janvier, en tout cas jusqu'à la vignette. Les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup à Caroline Mécari d'être passée. Merci à Irène Hinchospé du quotidien L'Opinion. Merci Audrey Goutard. Un petit coup d'œil à notre partenaire, la Une de l'Express cette semaine,
Eric Béthou. La désintégration de la gauche.
Voilà, c'est ça, avec une photo en effet. On voit les différents hommes de gauche. Allez, les informés, c'est donc terminé. Temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi. Bonsoir.